Le prince prédestiné. Il y avait une fois un roi à qui il ne naissait pas d'enfant mâle. Son cœur en fut tout attristé. Il demanda un garçon au dieu de son temps et ils décrétèrent de lui en faire naître un. Il coucha avec sa femme pendant la nuit et alors elle conçut. Accompli le mois de la naissance, voici que naquit un enfant mâle. Quand les Hâthors vinrent pour lui destiner un destin, elles dirent qu'il meure par le crocodile ou par le serpent, voire par le chien. Quand les gens qui étaient avec l'enfant l'entendirent, ils l'allèrent dire à sa majesté, et sa majesté en eut le cœur tout attristé. Sa majesté lui fit construire une maison de pierre sur la montagne, garnie d'hommes et de toutes les bonnes choses du logis du roi, car l'enfant n'en sortait pas. Et quand l'enfant fut grand, il monta sur la terrasse de la maison et il aperçut un lévrier qui marchait derrière un homme qui allait sur la route. Il dit à son page qui était avec lui, « Qu'est-ce qui marche derrière l'homme qui chemine sur la route ?» Le page lui dit, « C'est un lévrier. » L'enfant dit, « Oh, comment on apporte un tout pareil !» Le pape l'alla redire à sa majesté, et sa majesté dit, « Qu'on lui amène un jeune chien courant, de peur que son cœur ne s'afflige. » Et voici, on lui amena le lévrier. Et après que les jours eurent passé là-dessus, quand l'enfant eut pris de l'âge en tous ses membres, il envoya un message à son père disant, « Allons, pourquoi être comme les fainéants, puisque je suis destiné à 3 destinées fâcheuses, quand même j'agirai selon ma volonté, Dieu n'en fera pas moins ce qui lui tient au cœur. » On écouta tout ce qu'il disait, on lui donna toutes sortes d'armes, on lui donna aussi son lévrier pour le suivre, on le transporta à la côte orientale, on lui dit « Allez, va où tu le désires. » Son lévrier était avec lui. Il s'en alla donc, selon son caprice, à travers le pays, vivant des prémices de tout le gibier du pays. Arrivé pour s'envoler vers le prince de Naharina, voici, il n'était point né d'enfant au prince de Naharina, mais seulement une fille. Or, lui ayant construit une maison dont les 70 fenêtres étaient éloignées du sol de 70 coudées, il se fit amener tous les enfants des princes du pays de Karou, et il leur dit, « Celui qui atteindra la fenêtre de ma fille, elle lui sera donnée pour femme. » Or, beaucoup de jours après que ces événements furent accomplis, tandis que les princes de Syrie étaient à leur occupation de chaque jour, le prince d'Égypte étant venu à passer à l'endroit où ils étaient, ils conduisirent le prince à leur maison, ils le mirent au haut bain, ils donnèrent la provende à ses chevaux, ils firent toutes sortes de choses pour le prince. Ils le parfumèrent, ils lui ennuyèrent les pieds, ils lui donnèrent de leur pain, ils lui dirent en manière de conversation « Eh, d'où viens-tu, bon jeune homme ?» Il leur dit « Moi, je suis fils d'un soldat des chars du pays d'Égypte. Ma mère mourut, mon père prit une autre femme. Quand survinrent des enfants, elle se mit à me haïr, et je me suis enfui devant elle. » Ils le serrèrent dans leurs bras, ils le couvrirent de baisers. Or, après que beaucoup de jours eurent passé là-dessus, il dit au prince, « Que faites-vous donc ici ?» Ils lui dirent, « Oh, nous passons notre temps à faire ceci, nous nous envolons, et celui qui atteindra la fenêtre de la première fille du prince de Naharina, on le lui donnera pour femme. » Il leur dit, « S'il vous plaît, je conjurerai mes jambes, et j'irai m'envoler avec vous. » Ils allèrent s'envoler comme c'était leur occupation de chaque jour, et le prince se tint éloigné pour voir, et la figure de la fille du chef de la Harina se tourna vers lui. Or, après que les jours eurent passé là-dessus, le prince s'en alla pour s'envoler avec les enfants des chefs, et il s'envola, et il atteignit la fenêtre de la fille du chef de la Harina. Elle le baisa et elle l'embrassa dans tous ses membres. On s'en alla pour réjouir le cœur du père de la princesse et on lui dit « Un homme a atteint la fenêtre de ta fille !» Le prince interrogea le messager, disant « Mais le fils duquel des princes ?» On lui dit « Ben, le fils d'un soldat de char venu en fugitif du pays d'Égypte pour échapper à sa belle-mère quand elle eut des enfants. » Le prince de Naharina se mit très fort en colère. Il dit « Est-ce que moi je donnerai ma fille au transfuge du pays d'Égypte qui s'en retourne ?» On alla dire au prince « Retourne-t'en au lieu d'où tu es venu. » Mais la princesse le saisit et elle jura par Dieu, disant « Par la vie de Phra Harmakhis, si on me l'arrache, je ne mangerai plus, je ne boirai plus, je mourrai sur l'heure. » Le messager alla pour répéter tous les discours qu'elle avait tenus à son père. Et le prince envoya des gens pour tuer le jeune homme, tandis qu'il était dans sa maison. La princesse leur dit « Par la vie de Phra, si on le tue au coucher du soleil, je serai morte. Je ne passerai pas une heure de vie plutôt que de rester séparée de lui. » On l'alla dire à son père. Le prince fit amener le jeune homme avec la princesse. Le jeune homme fut saisi de terreur quand il vint devant le prince. Mais celui-ci l'embrassa, il le couvrit de baisers. Il lui dit « Conte-moi qui tu es, car voici, tu es pour moi un fils. » Le jeune homme dit « Moi, je suis l'enfant d'un soldat des chars du pays d'Égypte. Ma mère mourut, mon père prit une autre femme. Elle se mit à me haïr et moi je me suis enfui devant elle. » Le chef lui donna sa fille pour femme. Il lui donna une maison, des vassaux, des champs, aussi des bestiaux et toutes sortes de bonnes choses. Or, après que les jours eurent passé là-dessus, le jeune homme dit à sa femme « Je suis prédestiné à trois desseins, le crocodile, le serpent, le chien. » Elle lui dit « Comptes-tu le chien qui court devant toi ?» Il lui dit « Oh, s'il te plaît, je ne tuerai pas mon chien que j'ai élevé quand il était petit. » Elle craignit pour son mari beaucoup, beaucoup. Elle ne le laissa plus sortir seule. Or, il arriva qu'on désira voyager. On conduisit le prince vers la terre d'Égypte pour s'y promener à travers le pays. Or, voici le crocodile du fleuve sorti du fleuve. Et il devint au milieu du bourg où était le prince. On l'enferma dans un logis où il y avait un géant. Le géant ne laissait point sortir le crocodile, mais quand le crocodile dormait, le géant sortait pour se promener. Puis quand le soleil se levait, le géant rentrait dans le logis, et cela tous les jours, pendant un intervalle de 2 mois de jours. Et après que les jours eurent passé là-dessus, le prince resta pour se divertir dans sa maison. Quand la nuit vint, le prince se coucha sur son lit et le sommeil s'empara de ses membres. Sa femme emplit un vase de lait et le plaça à côté d'elle. quand un serpent sortit de son trou pour mordre le prince, voici, sa femme se mit à veiller sur son mari minutieusement. Alors les servantes donnèrent du lait au serpent. Il en but, il s'enivra, il resta couché le ventre en l'air, et la femme le mit en pièces avec des coups de sa hache. On éveilla le mari, qui fut saisi d'étonnement, et elle lui dit « Vois, ton Dieu t'a donné un de tes sorts entre tes mains, il te donnera les autres. » Il présenta des offrandes au Dieu, il l'adora, et il exalta sa puissance tous les jours de sa vie. Et après que les jours eurent passé là-dessus, le prince sortit pour se promener dans le voisinage de son domaine. Et comme il ne sortait jamais seul, voici son chien était derrière lui. Son chien prit le champ pour suivre du gibier, et lui, il se mit à courir derrière son chien. Quand il fut arrivé au fleuve, il descendit vers le bord du fleuve à la suite de son chien, et alors sortit le crocodile et l'entraîna vers l'endroit où était le géant. Celui-ci sortit et sauva le prince. Alors le crocodile, il dit au prince, « Ah, moi je suis ton destin qui te poursuit. Quoi que tu fasses, tu seras ramené sur mon chemin à moi, toi et le géant. Au revoir, je vais te laisser aller. Tu sauras que mes enchantements ont triomphé et que le géant est tué. Et si tu vois que le géant est tué, tu verras ta mort. » Et quand la terre se fut éclairée et qu'un second jour fut, lorsque vint, ici, parenthèse de l'auteur, la prophétie du crocodile est trop mutilée pour que je puisse en garantir le sens exact. On devine seulement que le monstre pose à son adversaire une sorte de dilemme fatal, où le prince remplira une certaine condition, et alors il vaincra le crocodile, ou il ne la remplira pas, et alors il verra sa mort. « Tu vas me jurer de tuer le géant. Si tu y refuses, tu verras la mort. » Et quand la terre se fut éclairée et qu'un second jour fut, le chien survint et vit que son maître était au pouvoir du crocodile. Le crocodile dit de nouveau, « Veux-tu me jurer de tuer le géant ?» Le prince lui répondit, « Mais pourquoi tuerais-je celui qui a veillé sur moi ?» Le crocodile lui dit, « Alors que ton destin s'accomplisse, si au coucher du soleil tu ne me prêtes point le serment que j'exige, tu verras ta mort. » Le chien, ayant entendu ces paroles, courut à la maison et il trouva la fille du prince de Naharina dans les larmes, car son mari n'avait pas reparu depuis la veille. Quand elle vit le chien seul, sans son maître, elle pleura à haute voix et elle se déchira la poitrine. Mais le chien la saisit par la robe et il l'attira vers la porte comme pour l'inviter à sortir. Elle se leva, elle prit la hache avec laquelle elle avait tué le serpent, et elle suivit le chien jusqu'à l'endroit de la rive où se tenait le géant. Alors elle se cacha dans les roseaux, et elle ne but ni ne mangea, mais elle ne fit que prier les dieux pour son mari. Quand le soir fut arrivé, le crocodile dit de nouveau, « Veux-tu me jurer de tuer le géant, sinon je te porte à la rive et tu verras ta mort ?» Et il répondit, « Mais pourquoi tuerais-je celui qui a veillé sur moi ?» Alors le crocodile l'emmena vers l'endroit où se tenait la femme, et elle sortit des roseaux. Et voici, comme le crocodile ouvrait la gueule, elle le frappa de sa hache, et le géant se jeta sur lui et l'acheva. Alors elle embrassa le prince et elle lui dit, « Vois, Ton Dieu t'a donné le second de tes sorts entre tes mains, il te donnera le troisième. Il présenta des offrandes au Dieu, il l'adora et il exalta sa puissance tous les jours de sa vie. Et après que les jours eurent passé là-dessus, les ennemis pénétrèrent dans le pays. Car les fils des princes du pays de Karou, furieux de voir la princesse aux mains d'un aventurier, avaient rassemblé leurs fantassins et leurs chars. Ils avaient anéanti l'armée du chef de la Haryana et ils avaient fait le chef prisonnier. Comme ils ne trouvaient pas la princesse et son mari, ils dirent au vieux chef: Où est ta fille et ce fils d'un soldat des chars du pays d'Égypte à qui tu l'as donnée pour femme? Il leur répondit: Il est parti avec elle pour chasser les bêtes du pays. Comment saurais-je où ils sont? Alors ils délibérèrent et ils se dirent les uns aux autres: Partageons-nous en petites bandes et allons de çà et de là par le monde entier, et celui qui les trouvera, qu'il tue le jeune homme et qu'il fasse de la femme ce qui lui plaira. Et ils s'en allèrent, les uns à l'est, les autres à l'ouest, au nord, au sud, et ceux qui étaient allés au sud parvinrent au pays d'Égypte, à la même ville où le jeune homme était avec la fille du chef de la Harina. Mais le géant les vit, il courut vers le jeune homme et il lui dit: Voici, sept fils des princes du pays de Karou approchent pour te chercher. S'ils te trouvent, ils te tueront et ils feront de ta femme ce qu'il leur plaira. Oh, ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur résister. Fuis devant eux et moi je retournerai chez mes frères. Alors le prince appela sa femme. Il prit son chien avec lui et tous ils se cachèrent dans une grotte de la montagne. Ils y étaient depuis 2 jours et 2 nuits, quand les fils des princes de Karou arrivèrent avec beaucoup de soldats, et ils passèrent devant la bouche de la caverne sans qu'aucun d'eux aperçût le prince. Mais comme le dernier d'entre eux approchait, le chien sortit contre lui et il se mit à aboyer. Les fils des princes de Karou le reconnurent, et ils revinrent sur leurs pas pour pénétrer dans la caverne. La femme se jeta devant son mari pour le protéger, mais voici, une lampe le frappa, et elle tomba morte devant lui. Et le jeune homme tua l'un des princes de son épée, et le chien en tua un autre de ses dents, mais ceux qui restaient les frappèrent de leurs lances, et ils tombèrent à terre sans connaissance. Alors les princes traînèrent les corps hors de la caverne, et ils les laissèrent étendus sur le sol pour être mangés des bêtes sauvages et des oiseaux de proie. Et ils partirent pour aller rejoindre leurs compagnons et pour partager avec eux les terres du chef de Hanarina. Et voici, quand le dernier des princes se fut retiré, le jeune homme ouvrit les yeux et il vit sa femme étendue par terre à côté de lui comme morte et le cadavre de son chien. Alors il gémit et il dit: En vérité, les dieux accomplissent immuablement ce qu'ils ont décrété par avance. Les Hâthors avaient décidé dès mon enfance que je périrais par le chien. Et voici, leur arrêt a été exécuté, car c'est le chien qui m'a livré à mes ennemis. Je suis prêt à mourir, car sans ces deux êtres qui gisent à côté de moi, la vie m'est insupportable. Et il leva les mains au ciel et s'écria: Mais je n'ai point péché contre vous, ô Dieu. C'est pourquoi accordez-moi une sépulture heureuse en ce monde et la voie juste devant les juges de l'Amenti. Il retomba comme mort. Mais les dieux avaient entendu sa voix, et la neuvaine des dieux vint vers lui. Hera Harmakis dit à ses compagnons, le destin s'est accompli. Maintenant, donnons une vie nouvelle à ces deux époux, car il convient de récompenser dignement le dénouement dont ils ont fait preuve l'un pour l'autre. Et la mère des dieux approuva de la tête les paroles de Harmakis, et elle dit, un tel dévouement mérite une très grande récompense. Les autres dieux entendirent tout le temps, puis les sept Hathors s'avancèrent et elles dirent, le destin est accompli, maintenant qu'ils reviennent à la vie. Et ils revinrent à la vie sur l'heure. Note du traducteur. En terminant, M. Hébert se raconte que le prince révèle à la fille du chef de la marina son origine réelle et qu'il rentre en Égypte où son père l'accueille avec joie. Il repart bientôt pour le Naharina, bat ses meurtriers et rétablit le vieux chef sur son trône. Au retour, il consacre le butin à Amurat et il passe le restant de ses jours en pleine félicité.